Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
Le Kosovo a perdu son président, Ibrahim Rugova, dans le dernier virage sur le chemin de l'indépendance. Un nouveau statut pour cette province, officiellement toujours serbe et administrée par l'ONU, doit être défini cette année. Au fil des élections présidentielles, l'Amérique latine confirme son ancrage à gauche, mais surtout la volonté de mettre en œuvre des politiques sociales et de s'affranchir au passage de la tutelle des États-Unis. Le Népal s'enfonce toujours plus dans la crise, avec une confrontation triangulaire entre le roi, la rébellion maoïste et les partis parlementaires, un cocktail explosif. Notre magazine cette semaine est décidément politique. La mort d'Ibrahim Rugova, c'est la fin d'une époque au Kosovo. Le président incarnait en effet depuis des années cette lutte acharnée mais pacifique pour l'indépendance, un rêve comme un défi pour celui qui lui succédera, car la province, officiellement toujours serbe, mais sous protectorat international, devrait finalement cette année connaître son nouveau statut. Pour Mohamedine Koulachi, kosovar, enseignant à Paris 8 et membre du Forum 2015, la seule solution viable, après toutes les vicissitudes de cette province à 90% albanaise, c'est bien la reconnaissance du Kosovo comme État indépendant. Mais pour l'heure, c'est sûr, il faudra surmonter la disparition d'Ibrahim Rugova.
Pour la population du Kosovo, c'est un événement tragique, la disparition d'Ibrahim Rugova, d'autant plus que c'était quelqu'un qui avait réussi dans les périodes les plus graves de l'histoire politique du Kosovo à réunir, à assembler la population du Kosovo autour d'un projet politique et les réunir donc par les moyens pacifiques et politiques dans une situation qui avait marqué l'histoire de l'Europe, donc dans la deuxième partie du XXe siècle, par des événements très graves, des conflits donc qui ont déchiré l'ex-Yougoslavie. Et il a su, donc dans cette situation extrêmement difficile, amener une politique qui a quand même donné une certaine cohésion à la société kosovare, qui a su résister à une terreur systématique de l'État de la Serbie. Et dans ce sens, effectivement, au moment justement où il y a début des négociations du Kosovo, on sent, si vous voulez, le manque de sa personnalité, de sa carrure, de son autorité.
Quand on parle d'Ibrahim Rugova, plusieurs mots reviennent souvent, plusieurs qualificatifs, surtout pacifiques, alors qu'il était d'une grande ténacité, mais en même temps d'une grande modération. On dit de lui, on l'a surnommé déjà le Gandhi kosovar. Alors, vu qu'on est à l'heure maintenant de la recherche de son successeur, est-ce qu'il y a risque réel d'anarchie justement dans cette querelle du pouvoir qui va peut-être s'ouvrir?
Des querelles, il pourrait y avoir, d'abord au sein de son parti, des appétits politiques, si vous voulez, avec l'espace qu'il va laisser peut s'éveiller à côté des partis qui avaient un poids moins important dans le passé. Il n'est pas exclu. Mais en même temps, moi, je crois que d'autant plus qu'il y a un encadrement international sur place, d'une part, et d'autre part, il y a une demande de l'opinion publique kosovare de responsabilité de la classe politique, en particulier dans cette période où s'ouvrent justement les négociations. Je crois, dans ce sens, qu'il y aura ces deux correcteurs, disons, une présence internationale et d'autre part l'opinion elle-même du Kosovo qui, depuis un certain temps, de façon plus claire, exige l'unité et la responsabilité de la classe politique devant ce processus de négociation.
Est-ce que vous pensez qu'il y a parmi les hommes politiques kosovars quelqu'un qui a, disons, l'envergure ou en tout cas peut-être déjà un peu le charisme d'un Rugova?
Non, à mon avis, non. D'abord, on n'est pas dans la situation dans laquelle Rugova a travaillé. Si vous voulez, on est dans une situation plus réaliste, beaucoup plus détendue, qui fait que les hommes politiques qui sont maintenant sur la scène politique n'auront pas à gérer les difficultés que Rugova a gérées dans des situations extrêmement dramatiques, historiques du Kosovo. Mais le côté positif, si vous voulez, de cela, c'est que l'opinion kosovare, justement, pourra juger de façon plus réaliste également les résultats de leur action.
Alors la question de la résolution du statut du Kosovo comme chemin, je dirais, pour sortir le Kosovo de la crise économique et politique aussi quelque part, pour sortir aussi cette région de son isolement politique et culturel. Alors pourquoi, selon vous, la question de l'indépendance est si importante? Est-ce que l'indépendance est finalement la seule voie viable pour cette région?
La question du Kosovo fait partie, si vous voulez, du contexte de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. On ne pourra pas bien comprendre le problème du Kosovo et cette revendication d'indépendance si on fait abstraction de la décomposition de l'ex-Yougoslavie, de la fédération yougoslave en ses unités fédérales. Vous le savez, ont été formés depuis des États, depuis la Slovénie jusqu'à la Macédoine. Le Kosovo était une unité de la fédération. Il n'avait pas le nom de république, mais il avait tous les organes de la république, c'est-à-dire une présidence, un parlement, un président, un territoire défini de façon très claire par la constitution de la Yougoslavie. Et dans ce contexte de l'éclatement, c'est un des arguments, si vous voulez, mais beaucoup plus, si vous voulez, c'est aussi la politique assez longue de l'État de la Serbie sur le Kosovo. Il y a juste à se rappeler les témoignages de la social-démocratie serbe du début du siècle, quand il parle des massacres massifs de populations civiles au Kosovo, justement à Drenica, à Ionik, etc. Et puis, à la fin du siècle, quand même, quand cet État va expulser 900 000 personnes avec des massacres des civils. Et le troisième argument, si vous voulez, pour la population albanaise du Kosovo, donc 90% de la population, c'est que l'Union européenne, on le dit, bon, l'avenir du Kosovo, c'est l'Union européenne. L'Union européenne ne connaît que des États. D'autres instances internationales ne connaissent que des États. Donc cette revendication est tout à fait légitime, comme ça a été le cas pour la Macédoine, pour la Bosnie, pour d'autres, ce qui fait que la solution politique doit aller dans ce sens. À partir de là, les relations, à mon avis, entre la Serbie et le Kosovo, à partir de ce pied d'égalité, peuvent se construire, donc peuvent avoir un avenir au sein de l'Union européenne et une communication économique, politique et culturelle sur une base saine. Et on va éviter la domination, on va éviter, si vous voulez, ces tentatives de terreur.
Le Kosovo est géré, pour ainsi dire, par la communauté internationale, par l'ONU depuis 1999. Cette année, donc, un statut définitif, je dirais, du Kosovo va être défini. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Pourquoi la communauté internationale hésite-t-elle? Est-ce qu'elle a des motifs d'hésiter? Et pourquoi, peut-être, ces réserves à propos de l'indépendance n'ont pas existé?
On peut le dire, effectivement, il y a eu une oscillation, si vous voulez. On savait que les États-Unis et la Grande-Bretagne, depuis le début, ont été pour l'indépendance. Et d'autres pays ou des diplomaties ou des parties du côté de l'Union européenne ont été plus réticentes et ont dit on va voir plus tard. C'est-à-dire qu'il y a eu un report de l'ouverture de la question du statut du Kosovo pour différentes raisons. Il y a de façon globale toujours une crainte, si vous voulez, chez les grandes puissances, la création des nouveaux États, ils n'aiment pas du tout. À mon avis, des raisons différentes, des politiques parfois qui sont liées avec un passé politique. Il y a eu un manque, si vous voulez, d'une volonté politique commune au sein de l'Union européenne pour aborder de façon lucide et plus énergique la solution de cette question, surtout quand même après l'intervention de l'OTAN, après l'installation des organismes internationaux. Le Kosovo était de fait indépendant, il fallait légaliser cette... Mais je crois que c'est... il s'agissait de différents types de réticences au sein de la diplomatie européenne plutôt, mais ça n'a pas aidé beaucoup, si vous voulez, à la création des préparatifs. Parce que le Kosovo est resté dans un cercle vicieux. D'une part, il faut le reconnaître que la communauté internationale a aidé beaucoup le Kosovo, a apporté beaucoup de choses, a aidé la reconstruction d'un pays qui était ravagé après la guerre, a aidé la reconstitution du système de l'enseignement, de la santé, des médias, mais malheureusement très peu dans le domaine de l'économie. Et puis, à cause de manque de statut, il n'y a pas eu d'investissement. Et d'autre part, on disait, si vous voulez accéder, ouvrir la question du statut, il faut remplir des standards. Donc c'était devenu un cercle vicieux. D'une part, le Kosovo n'avait pas d'accès aux instances internationales. Et malheureusement, on a assisté à cette situation ambiguë d'un isolement relatif et politique et économique et culturel de Kosovo. C'est la raison pour laquelle il est très important que ces négociations ne traînent pas, parce que on est dans une situation où plus de 50% de population des jeunes sont au chômage. On ne voit pas encore vraiment de pistes pour, si vous voulez, un développement politique et économique surtout important. Et je crois que le statut va ouvrir ces possibilités, va permettre au Kosovo d'accéder à des instances internationales, politiques, économiques et financières.
Parmi peut-être les pays européens qui avaient quelques réserves pour peut-être d'anciennes alliances, comme vous le disiez, on peut parler de la France peut-être et qui avait peut-être peur aussi pour les droits des minorités, et peut-être de cette minorité serbe qui reste bien présente quand même au Kosovo. Et elle représente quel pourcentage?
Autour de 10%, mais à mon avis, dans une partie de la diplomatie française, le poids est beaucoup plus effectivement avec l'alliance de la Première Guerre mondiale. Moi-même, j'ai été étonné combien cet impact est fortement enraciné dans une partie de la classe politique et de la diplomatie. Et je me disais que quand même, à un moment où on a une Union européenne où il devrait faire une politique étrangère commune, où cette politique devrait être tournée beaucoup plus vers l'avenir que vers les alliances de la Première Guerre mondiale. Mais pour ce qui est du statut de minorité, c'était le souci de beaucoup de gens, y compris d'une partie de la population kosovo, des intellectuels qui étaient assez mécontents du fait qu'il y a des exactions commises par des extrémistes albanais contre la population serbe. Et c'est un problème tout à fait réel, je vais dire, mais c'est un problème également qui a été, à mon avis, d'autre part, un peu compliqué par le jeu que Belgrade a mené, instrumentalisé, si vous voulez, cette situation, parce que Belgrade, de façon ouverte, a demandé aux Serbes du Kosovo, aux représentants politiques, de ne pas participer à ces institutions, ne pas participer aux élections, et cela n'a pas aidé, si vous voulez, d'où, dans le cadre de cette revendication pour l'indépendance, également, la population du Kosovo accepte une présence internationale qui aura pour but, justement, cette protection de la minorité serbe, et c'est tout à fait légitime, et la grande majorité de l'opinion soutient cette option.
C'est une utopie de rêver nouveau à une entente réelle entre Serbes et population albanaise du Kosovo?
Non, parce que finalement, le passé des Balkans est plein de conflits, comme d'ailleurs l'histoire de l'Europe aussi, malheureusement, avec des conflits extrêmement graves. Moi, je crois qu'il faut tout simplement créer des bases solides, juridiques et constitutionnelles qui peuvent permettre le dépassement, si vous voulez, de ces conflits. Et la meilleure possibilité de dépasser et d'amortir, si vous voulez, des tensions, parce qu'ils ne sont pas exclusivement entre Serbes, Albanais et Kosovo, ils sont aussi présents en Bosnie, ils sont présents en Macédoine, ils sont présents également des tensions que vous connaissez entre le Monténégro et la Serbie. Mais la perspective de l'Union européenne, c'est vraiment la seule qui puisse, par la médiation des instances européennes, amortir, si vous voulez, ces tensions qui existent dans toute cette partie des Balkans de l'Ouest. Pour ce qui concerne directement ces relations serbes-albanais, je crois qu'un premier geste, quand même, devrait venir de la part de la classe politique serbe, qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas reconnu les crimes que l'État de la Serbie a fait sur le Kosovo. Il y a une reconnaissance un peu timide des crimes à Srebrenica, mais au jour d'aujourd'hui, la classe politique de Belgrade n'a pas reconnu les crimes de l'État serbe. Vous savez comment la réconciliation franco-allemande s'est passée après la Deuxième Guerre mondiale? Parce qu'il y a une reconnaissance d'abord des crimes qui ont été faits par ceux qui ont fait les crimes. Et c'est à partir de là qu'on peut aller vers la réconciliation.
Mouhamedine Koulachi publiera tout prochainement chez l'Harmattan un livre sur les Balkans, Effacer l'autre, un titre qui en dit long. Élections au Chili, élections en Bolivie, une femme devient présidente, un Indien devient président. Et voilà que l'on parle beaucoup de l'Amérique latine, surtout qu'après les élections en Uruguay, et avec en vue une dizaine de scrutins présidentiels cette année, tout porte à croire que l'ancrage à gauche sera majoritaire. Mais comme l'explique Georges Coufignal de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, qui vient de passer 5 ans au Chili, c'est surtout la volonté d'œuvrer dans le champ social qui est commune à tous.
Je ne suis pas sûr que le clivage gauche-droite tel que nous l'entendons ait un sens important en Amérique latine. Je crois que c'est beaucoup plus un clivage du style populiste-non-populiste ou plus ou moins nationaliste qui sont importants que droite-gauche. Ce qui est sûr, néanmoins, et c'est peut-être ça qui unit ces divers dirigeants, mais qui sont plus ou moins populistes ou plus ou moins nationalistes, c'est qu'ils mettent l'accent sur les politiques sociales. C'est une tendance forte. Le cas colombien est différent. Uribe, lui, est complètement accaparé par l'unique objectif d'essayer de résoudre le problème de la guérilla. Donc, il n'a pas de préoccupation particulière dans le champ social. Mais quasiment tous les autres, œuvrent dans ce champ-là.
Y a-t-il par ailleurs une réelle volonté, exprimée comme telle ou non, de se détacher de la tutelle des États-Unis, ou est-ce le résultat finalement d'une nouvelle donne politique, je dirais?
C'est le résultat d'une nouvelle donne politique. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis n'ont plus la possibilité d'être aussi présents en termes de pression, j'entends, sur le continent américain. C'est un continent qui aujourd'hui est entièrement démocratique. Les États-Unis ont fait de l'exportation de la démocratie l'un des axes de leur politique étrangère. Ils ne peuvent donc pas intervenir directement ou indirectement contre des présidents légitimement élus. On le voit bien d'ailleurs avec le cas de Chavez au Venezuela, qui fait des diatribes régulières contre l'impérialisme américain, sans que cela lui porte préjudice réel dans ses relations avec les États-Unis et dans la vente de son pétrole. Alors, je crois que les dirigeants latino-américains en ont une claire conscience. Ça leur donne une marge d'autonomie qu'ils n'avaient pas auparavant. On l'a bien vu au moment où il s'est agi de voter pour ou contre l'intervention américaine en Irak au Conseil de sécurité de l'ONU en 2003. Le Mexique, qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis, a voté contre, et le Chili, qui était en train de négocier un accord de libre-échange, a voté contre aussi.
Alors, dans cet ensemble de présidents, de nouveaux présidents qu'à l'Amérique latine, on vient de voir l'arrivée au pouvoir du président Morales, qui prend en considération donc les populations indiennes, et c'est la première fois depuis longtemps, sûrement.
C'est quand même important dans ce pays, à majorité métisse et indienne, un Indien qui arrive à la présidence. Bon, il y avait eu à la vice-présidence Victor Hugo Cárdenas, un autre Indien au début des années 90, mais là, c'est un symbole très très fort, car les classes moyennes ont voté pour lui. Je suis convaincu que c'est l'aboutissement d'un phénomène que l'on voit monter depuis une vingtaine d'années, c'est la question de l'indianité comme acteur politique en Amérique latine. Ça avait commencé en Équateur à la fin des années 70. Le Mexique, tout le monde connaît la saga du subcommandante Marcos. Bref, l'indianité est en train d'émerger comme acteur politique dans tous les pays andins.
Est-ce que ces populations indiennes laisseront le temps à un président comme Morales et à d'autres peut-être de réaliser finalement ce rêve, à savoir un rêve égalitaire?
Je ne saurais pas dire ce qui va se passer. Ceci étant, la culture andine n'est pas une culture de l'immédiateté, c'est une culture du temps. Y aura-t-il des pressions très très fortes? Probablement ça ne sera pas facile du tout, car il y a plusieurs communautés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a été intronisé représentant de toutes les communautés indiennes.
Alors, est-ce qu'il y a des leçons à tirer en France de ce qui s'est passé récemment au Chili?
L'une des leçons très, très importantes, c'est d'une part le fait qu'il y a un changement dans la manière dont se décident des candidatures aux élections présidentielles. Dans un pays qui, comme la France, est un pays fortement structuré au niveau des partis et qui n'est pas, j'allais dire, comme l'Italie ou comme le Venezuela, dans lequel tous les partis traditionnels ont disparu. Dans le cas chilien, comme dans le cas français, ou on pourrait dire dans le cas espagnol ou allemand ou anglais, on a des partis forts. Ceci étant, il est vrai que ces partis sont en crise, n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes sociales, et on voit apparaître de plus en plus l'importance des médias. Dans des moments où le politique a tendance à avoir une marge de manœuvre restreinte compte tenu des impératifs de l'économie monde, où il faut souvent réagir très vite, il est important qu'on ait confiance dans le dirigeant, qu'on lui accorde sa confiance et qu'on lui donne une sorte de capital de sympathie au moment où on sait qu'il aura à prendre des décisions sans avoir à référer directement à tous les partis. Cette montée de l'opinion publique s'est imposée dans le cas chilien aux partis politiques et a imposé la candidature de Michel Bachelet ou bien de Soledad Alvear de la démocratie chrétienne dans la candidature au sein de la concertation. Je crois que ce phénomène, nous allons le vivre de la même manière quasiment en France. Les partis ne pourront pas obérer, ignorer les résultats des sondages au moment où ils auront à choisir un candidat à la présidentielle.
Le Népal s'enfonce toujours plus dans la crise. Le week-end dernier, 23 personnes ont été tuées lors d'une nouvelle attaque maoïste à 200 km de Katmandou. Des centaines d'opposants pro-démocratie étaient par ailleurs arrêtés à la suite d'une manifestation interdite. Couvre-feu, communication téléphonique interrompue. La population se retrouve donc coincée entre blocage politique, répression militaire et attaque sanglante des maoïstes. Celles-ci ont fait plus de 50 victimes en un mois. Betsabé Salem en parle avec Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'Asie de l'Est.
En fait, c'est une longue histoire dans la mesure où, pour reprendre les choses au départ, une insurrection menée par des révolutionnaires maoïstes qui se définissent comme tels, alors qu'il y a des partis communistes parlementaires au Népal. Mais donc une insurrection maoïste se développe depuis 1996, elle a pris un poids considérable. Elle contrôle une bonne part du pays, elle est capable d'encercler la capitale Katmandou. Elle l'a déjà fait, elle menace de le faire de nouveau. Ça, c'est pour la ligne de base. Derrière cette insurrection, il y a un constat, évidemment, de mal-développement du Népal, mais il y a aussi des causes tout à fait politiques. En 1990, la monarchie népalaise, qui était quasi absolutiste, est devenue une monarchie constitutionnelle, mais depuis 2000, après une manière de coup d'État au sein du palais, le roi actuel cherche à réaffirmer son pouvoir, le roi Gyanendra, et s'est trouvé rapidement en opposition avec la quasi-totalité des partis politiques. On a donc aujourd'hui un scénario à trois acteurs clés. D'un côté, l'ensemble des partis politiques, alors même que le Parlement a été suspendu par le roi l'année dernière, en février 2005. De l'autre côté, l'insurrection maoïste. Et enfin, troisième pôle de ce triangle, le roi appuyé par l'armée. Tout dépend de cette géométrie entre les trois pôles. Le roi a choisi la confrontation avec les partis parlementaires. Et ces partis parlementaires ont eux-mêmes, non pas signé un accord, mais conclu une manière de pacte avec les maoïstes il y a quelques semaines, pour demander non pas nécessairement l'abolition de la monarchie, mais en tout cas un réaménagement constitutionnel. On a donc d'un côté un mouvement armé et de l'autre côté un blocage politique total.
Est-ce qu'on voit une issue à cette situation, vous pensez ?
On ne voit pas d'issue à court terme, dans la mesure où la communauté internationale, en particulier les États-Unis et le grand voisin indien, plaident pour une solution politique. Ce qu'ils appellent leur vœu, ça serait que le pouvoir royal réussisse à remettre la machine politique en route, de façon à ce que les forces politiques, finalement, soient en mesure de traiter la question maoïste. Mais la façon dont les choses ont été gérées, et sur le long terme d'une dizaine d'années, et a fortiori depuis le raidissement royal ces tout derniers temps, on voit vraiment mal comment on pourrait trouver rapidement une sortie à cette crise.
Quelle est la situation des droits de l'homme au Népal ?
Elle est évidemment très négative dans la mesure où dans les campagnes, on a le cycle habituel mouvement armé, répression. Au départ, c'était répression par la police, puis par l'armée. Les maoïstes eux-mêmes ne sont pas des modèles de vertu en matière des droits de l'homme. Et donc, une partie de la population se trouve prise entre le marteau et l'enclume. Mais en dehors des exactions éventuelles de la police et de l'armée et des règlements de compte à l'initiative des maoïstes, il y a une politique autoritaire qui s'est mise en place. Après ce qui a été une espèce de coup d'État du pouvoir royal le 1er février 2005, avec donc un nombre considérable d'arrestations, entre autres dans les milieux intellectuels, dans la presse, dans le milieu des ONG. Donc la situation est très sérieuse de ce point de vue, mais ce problème de non-respect des droits de l'homme n'est lui-même en quelque sorte qu'une partie de ce grand échiquier politique sur lequel on ne voit pas vraiment qui peut l'emporter.
Il va y avoir des élections le 8 février prochain. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces élections municipales ?
Rien, en gros, parce que d'une part, les maoïstes ont annoncé qu'ils allaient faire en sorte que ça ne puisse avoir lieu. Donc, rien ne dit qu'ils mettront leur menace à exécution, mais c'est tout à fait possible. Mais surtout, un scrutin local ne peut pas remplacer un scrutin politique national. Bon, la vraie question aujourd'hui, c'est moins les scrutins municipaux que la remise en marche du Parlement. Il y a eu des propositions qui ont été faites conjointement par les forces politiques et par les maoïstes, par une espèce donc de drôle d'accord en novembre dernier, qui demandait dans tous les cas un processus de reconstitution d'une assemblée pour redéfinir ce que serait une monarchie constitutionnelle. Donc le véritable enjeu, il se trouve là, beaucoup plus que dans des scrutins municipaux.
Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine.